Alors.
Auditrices, auditeurs, bienvenue sur les bonnes ondes de Comme à la radio. L'émission à écouter, à réécouter, à emporter et à partager de la comédie de Colmar. Participe à ces podcasts Lily, Gaspard, Julien, Léa, Anne-Lise, Michaela, David, Pierre, Paul et les autres. Membres de notre jeune troupe de théâtre mutualisée avec la Comédie de Reims, nos artistes associés, notre collectif artistique et bien d'autres intervenants issus du monde du spectacle, mais pas que. Chaque épisode s'arrête sur une des thématiques qui traverse notre saison et permet d'offrir une lecture enrichie, un regard augmenté. À présent, réglez votre poste, fermez les yeux et tendez vos antennes. Vous êtes sur la bonne fréquence, c'est comme à la radio. Thème de ce podcast, bête de scène. Les animaux et la création, entretien avec Penda Diouf, autrice indomptable, notamment de La Grande Ours, aux éditions Quartet. Penda Diouf, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Corbeau, ours, caquettement, cocottement et grognement, vivons-nous dans un drôle de zoo?
Oui. Effectivement, je crois que l'idée de passer par la question animale, c'est à la fois pour questionner un peu le monde dans lequel on vit, c'est aussi pour travailler sur la question du vivant, parce que très souvent on se rend compte que les animaux sont très présents finalement dans notre environnement. On l'a vu pendant le confinement, il y avait plein d'animaux qui ressortaient des forêts, qui ressortaient des bois pour venir se balader dans les villes. Donc vraiment, ils ne sont pas très très loin, mais c'est vrai qu'ils sont assez absents des scènes de théâtre. Et du coup, moi, je trouve ça important d'intégrer l'ensemble du vivant en fait, dans mes textes et dans mon écriture. C'est pour ça que régulièrement, il y a des transformations animales ou bien végétales dans mes textes.
Alors, il y a des animaux effectivement qui parcourent les villes la nuit, qu'on a pu voir lors du confinement. Il y a des animaux gentils, il y en a d'autres qui sont méchantes. Est-ce que les plus dangereuses des bestioles, ce sont les vipères et leur mauvaise langue?
J'ai l'impression que les plus dangereuses, la plus dangereuse en tout cas, c'est l'espèce humaine. C'est elle qui, je crois, se croit au-dessus de la pyramide finalement, et c'est elle qui fait énormément de mal actuellement, pourquoi pas qu'actuellement d'ailleurs, hein, ça fait longtemps, au reste du vivant, à l'environnement. Il y a toutes les questions écologiques là, qui nous traversent en ce moment. Donc oui, je dirais que la plus dangereuse pour moi, c'est plutôt l'espèce humaine.
Et sur le reste dans l'espèce humaine, quand même les langues de vipères, est-ce que c'est quand même... un des problèmes, on va dire, actuels qui peut être important?
Alors, c'est vrai que dans le texte, ces langues de vipère, là, ces mauvaises langues, ce sont des... pour moi, c'était une sorte de métaphore des réseaux sociaux et de tout... Et des médias, d'une certaine façon, mais les médias, dans leur... part la plus sordide, celle qui va chercher les bas instincts, celle qui va exciter en fait les mauvaises pensées. Et c'est tout le travail aussi autour des rumeurs, autour des ragots, des injonctions aussi. C'était ça que j'avais envie d'aborder avec cette question des langues de vipères, mauvaises langues.
C'est vrai que dans la Grande Ourse, il y a toute une page sur les on-dits qui font référence, j'imagine, effectivement, comme tu viens de le signaler, aux réseaux sociaux et voilà, tout ce qu'on peut y trouver de pire. Dans la Grande Ourse, encore, la mère, on va dire, s'échappe du monde des humains et même tente de toucher les étoiles en devenant Grande Ourse. Est-ce que l'animal est l'avenir de l'homme ?
En tout cas, dans ce texte, c'est un endroit refuge et c'est aussi un endroit où elle est finalement elle-même, où elle est le plus proche d'elle-même. C'est en quittant l'humanité et les rôles sociaux qui lui sont assignés, tels que le rôle de maman, etc., qu'elle retrouve sa vraie essence finalement. Donc oui, peut-être que l'animal est l'avenir de l'humain.
J'avais une dernière question qui va commencer par des booms. Donc, je vais les faire. Boum, 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 boum. Il y a beaucoup de booms dans la Grande Ourse. Comment faire ou refaire battre le cœur du monde?
Bah déjà, en étant à l'écoute, tu l'as été puisque tu as remarqué qu'il y avait beaucoup de boom. Donc, je pense en étant à l'écoute du monde, en étant à l'écoute d'autrui. Et puis, après, en essayant de... Je crois beaucoup au collectif, donc en essayant de trouver collectivement des solutions communes. Et bien sûr, à travers l'art, évidemment, je pense qu'il y a possibilité de, voilà, de faire battre le cœur du monde.
Eh ben, merci beaucoup, Penda, et je te souhaite beaucoup de boom dans ta vie.
Merci.
La place des chevaux sur les plateaux contemporains et dans l'imaginaire. La compagnie Equinote, Bartabas, Laetitia Doche avec Hate, Marion Bouquet, comédienne et metteuse en scène, co-directrice de la compagnie Le Veilleur, à toi de veiller sur le bestiaire théâtral.
Bête de scène, la place des chevaux sur les plateaux contemporains. Merci de ne pas faire de gestes brusques ou de ne pas applaudir avant la fin pour ne pas m'effrayer. Ça, ce sont les mots de Corazon qui débute le spectacle. Corazon, c'est le compagnon de scène de Laetitia Doche dans son spectacle Eight, tentative de duo avec un cheval. Je reste un animal sauvage, avec un instinct de survie, avec une peur parfois incontrôlable, et ce serait vraiment pas drôle, parce que vous savez pas vous tenir, que mes 600 kilos de muscles traversent le public à plein galop. Ouais, il aurait aussi pu dire ça, hein, Corazon, dans sa tête de cheval, j'imagine. Sur le plateau, il y a une femme nue et un cheval, blanc, gris. Un cheval détaché et le public face à lui. Comme pour questionner notre rapport aux animaux, qu'on déteste en aimant et qu'on aime en détestant. Pour questionner la représentation de l'espèce humaine face à une autre espèce. Pour revenir à une relation plus primitive, peut-être plus essentielle à l'autre. La comédienne le fait parler, lui invente sa pensée, son regard sur notre espèce, lui fait chanter des chansons aussi, pour s'autoriser à écrire de la poésie, de l'utopie peut-être un peu, qui sait. Et j'ajouterai à ces derniers mots de Laetitia Doche, les miens. C'est pour l'amour du cheval aussi, pour la recherche de la complicité, peut-être, mais surtout pour la fascination de cet animal à la fois si sauvage et si domestique. Avec autant de cœur qu'une lettre d'amour, Bartabas, écuyer, metteur en scène et directeur artistique, déclara, dans son texte « D'un cheval à l'autre », édité chez Gallimard, cette complicité à son cheval Zingaro, frison emblématique de la troupe équestre éponyme. Zingaro, mon sang, ma chair, ensemble nous nous sommes appris, nous éduquant l'un l'autre jusqu'à inventer un langage seulement connu de nous. Ce fut long et laborieux parfois. Tant de maladresse, d'abord, de tâtonnement, de vaines tentatives pour se chercher, se comprendre, acquérir tous les gestes qui me fondent aujourd'hui. Nous nous sommes construits petit à petit, en marge du voyage, par tous les temps, par tous les lieux, jamais loin des arènes, qu'elles soient de Nîmes ou de Madrid. À toute heure du jour et même de la nuit, nous nous sommes donnés, sans nous préserver, comme un premier amour. Quelque chose qui va bien au-delà de ce que peuvent enseigner les chuchoteurs et autres éthologues à micro-cravate. Je me suis immergée jusqu'au plus profond de toi-même et j'ai récupéré ton animalité et les fêtes miennes. Tous les soirs, plutôt que de servir un numéro de cirque, il s'agissait d'occuper l'arène comme deux acteurs jouant au gladiateur. Moi, en panique de finir ma course affalée sur une table ou sur les genoux des spectateurs en émoi, lui, triomphant les deux antérieurs sur la banquette. Jouer à se faire peur, jouer avec la peur des autres, jouer à se défier violemment puis me lever dans son cœur, assis en signe de soumission pour qu'enfin le public entrevoie tout l'amour qu'il avait fallu partager pour en arriver là. Avec les années, le poulain maladroit est devenu un monstre des talons, un magnifique frison d'ébène aux muscles luisants et à la crinière ondulante. Plus de 3000 représentations firent de lui le roi des chevaux. Sa notoriété s'étendit de Tokyo à New York. Elles firent aussi de nous de vieux partenaires, s'évitant la journée pour mieux se retrouver le soir et tenter de se surprendre encore. Compagnon de route, compagnon d'inspiration, compagnon d'écoute et d'échange, un miroir, une liberté, c'est avec 6 chevaux et un chien que la compagnie Equinote parcourt la France avec le spectacle avant la nuit d'après, dont le chapiteau a été planté sur le parking de la Comédie de Colmar en 2021. Est-ce que ce sont les chevaux qui réveillent ce besoin d'itinérance ? Bon, ils amènent en tout cas cette dose de magie, d'imprévu qui s'aligne avec les comédiens et les acrobates. Mais qu'est-ce qu'on tente de raconter en jouant avec le cheval ? Qu'on le domine ? Qu'on arrive à dompter plus gros que nous ? Comment se situer quand nos moyens de gratter l'amour auprès d'eux sont des kilos de carottes et des surnoms mignons ? Ben, il est loin, hein, le fantasme préféré des enfants de faire du poney quand on leur met une pièce de métal dans la bouche. Alors le plateau est peut-être l'endroit où on les retrouve libres, où on les détache de nos moyens de domination, où on se permet de se sentir vulnérables, et où ils reprennent le poids qu'ils méritent. Peut-être que c'est ça le commun de ces artistes, de se mettre aussi à nu qu'eux, de trouver la même allure à côté d'eux, de marcher quand ils marchent, de trotter quand ils trottent, et puis de finir par les laisser galoper.
La sélection ciné à brûle-pourpoint de Pierre Maillet, plus félin, pachydermique et carpésien que jamais.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre Maillet qui vient une nouvelle fois vous raconter ses souvenirs, enfin vous parler plutôt, de son rapport au cinéma en tant que cinéphile assidu et non pas spécialiste. Et alors aujourd'hui, la thématique, eh bien, c'est Bêtes de scène. Alors Bêtes de scène, moi, ça m'a tout de suite fait penser à une période assez magique du cinéma américain dans les années 80, encore une fois, hein. On ne se refait pas, c'est toujours quand on est enfant ou adolescent que les souvenirs restent. Et alors aujourd'hui, j'ai donc choisi de vous parler de trois films et de plutôt trois cinéastes qui, donc, comme je vous le disais, ont été sollicités par de grands studios américains, là en l'occurrence c'est Universal et la Fox, pour faire des remakes de films fantastiques des années plutôt, voilà, des films en noir et blanc plutôt anciens. Et alors le premier auquel je pense, c'est Paul Schrader. Paul Schrader, c'est un très grand cinéaste. D'ailleurs, je vous conseille vivement son dernier film, The Card Counter, avec Oscar Isaac, qui est absolument magnifique. Et Paul Schrader, c'est aussi un très grand scénariste. C'est lui, par exemple, qui a écrit Taxi Driver pour Martin Scorsese. Et sa carrière de cinéaste est vraiment très très intéressante parce qu'il n'a pas cessé de creuser comme ça. On va dire une vision du désir assez particulière et une vision du monde plutôt sombre, mais quand même assez sensible. Et donc là, on lui propose de faire le remake de La Féline, qui est à la base un film de Jacques Tourneur. Le pitch, en gros, c'est une jeune fille en fait qui dès qu'elle a du désir ou qu'elle fait l'amour avec quelqu'un, se transforme en panthère et donc finit par dévorer ses amants. Et alors là, Paul Schrader, du coup, prend la commande et il en fait un film, on n'en attendait pas moins de lui, très, très personnel. Il choisit Nastassia Kinski, qui est à l'apogée de sa beauté, de sa carrière, qui vient de faire aussi Coup de cœur avec Francis Ford Coppola. C'est sa période américaine, on va dire. Ils auront même, pour la petite anecdote, une passion amoureuse pendant le tournage du film. Et elle a pour partenaire Malcolm McDowell, aussi un très grand acteur qu'on voit plus trop maintenant, mais par exemple c'est lui qui tient le rôle principal d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick, un acteur comme ça très 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 intense et assez inquiétant. Et là, le film se passe. Alors, moi, je n'ai pas vu le vieux film. Alors, je ne sais pas trop les différences pour les comparer. Mais ça se passe à la Nouvelle-Orléans. C'est une ambiance comme ça très, très, très humide dans tous les sens du terme. Et Nastassia Kinski arrive du coup à la Nouvelle-Orléans, va travailler dans un zoo et va vivre avec son frère qui est donc joué par Malcolm McDowell. Et lui il sait déjà en fait que dès qu'il a du désir pour des gens, ben il se transforme en panthère et du coup il tue ses maîtresses. Et elle va découvrir petit à petit, parce qu'elle va tomber amoureuse aussi d'un des responsables du zoo, ben qu'elle a le même problème. Et donc, elle va finir par, à la fin, rester panthère et enfermée dans un zoo, par amour pour justement son amant, qu'elle ne veut évidemment pas tuer. Il se trouve que Malcolm McDowell donc est son frère, et puis il semblerait que dans leur gène, il faudrait qu'ils s'accouplent eux deux pour pouvoir justement, c'est les seules personnes qui peuvent faire l'amour sans se faire du mal et sans se tuer. Donc lui, il va finir par être tué, et donc elle par rester aux eaux dans sa cage, où elle verra passer tous les jours son amoureux. Donc c'est un film, encore une fois, très très personnel, assez violent, mais très très inventif au niveau des effets spéciaux, des maquillages. Moi, j'ai beaucoup de tendresse en fait pour les effets qu'on voit. C'était bien avant le numérique, et il y a des vraies panthères et tout ça. Donc c'est un très très beau film, avec une musique sublime et des chansons de David Bowie, et notamment des séquences assez hallucinantes comme ça. Je crois d'ailleurs que c'est le décorateur de Fellini qui a assuré la direction artistique, où on voit en fait le passé, quoi, de d'où vient cette histoire de félin et d'humains qui s'accouplent. Deuxième film, et deuxième grand cinéaste qui se colle à la tâche de la commande, c'est John Carpenter. John Carpenter, pour moi, c'est un très très grand cinéaste fantastique qui a été l'un des... mon premier cauchemar de cinéma, ça a été avec Halloween, qui est son premier très très gros succès. Et puis ensuite, il va y avoir Fog, il va y avoir New York 1997. Enfin, moi j'adore tous ces films, et c'est surtout un cinéaste très très engagé à gauche, donc qui fait toujours passer dans ses films fantastiques apparemment anodins des messages plutôt très bien sentis contre le pouvoir américain et le pouvoir sous toutes ses formes. Et alors là, lui, il s'attaque à The Thing. Pardon pour la prononciation. En français, ça veut dire la chose. Et c'est un film à la base de Howard Hawks. Et c'est un groupe d'hommes, en fait, qui sont des chercheurs au pôle Nord, qui un jour reçoivent la visite d'un chien qui est poursuivi par des hélicoptères. Ils comprennent pas pourquoi, donc ils recueillent ce chien, et il se trouve que ce chien, qui est d'ailleurs un acteur magnifique, les scènes avec le chien sont sublimes, la course dans la neige avec les hélicoptères, et c'est vraiment extrêmement beau. C'est un peu une version, si on va dire, d'Alien, c'est-à-dire que cette chose qui n'a pas de forme, en fait, arrive à survivre en rentrant dans le corps des gens. Donc, on ne peut pas savoir qui est possédé, on va dire, par la chose. Et la chose, évidemment, n'a qu'un seul but, c'est de détruire l'humanité. Donc, c'est un film extrêmement fort. Encore une fois, les scènes avec le chien sont extraordinaires. Là aussi, des effets spéciaux extrêmement inventifs. De l'avant numérique pour tous les moments où la chose sort des ventres, des têtes, et se transforme. Je vous le conseille vivement. Et puis le troisième grand cinéaste qui se colle à la commande, c'est David Cronenberg. David Cronenberg va prendre beaucoup, beaucoup de temps avant d'accepter de faire le remake de La Mouche, qui là, pour le coup, est une vraie série B, je crois, des années 50-60, dans lequel un chercheur qui est interprété par Jeff Goldblum a inventé une machine de téléportation. Et le jour où il s'y essaye, enfin où la machine est complètement finie selon lui, une petite mouche se rentre dans la cabine de téléportation, et petit à petit il va devenir une mouche. Alors on connaît le goût de David Cronenberg pour le malaise, on va dire, qu'il peut créer avec les corps et l'intérieur des corps. Et là, c'est vrai que, on va dire, par rapport au sujet un petit peu léger, Il arrive à faire un film très très émouvant d'ailleurs sur la transformation de cet homme. Et il y a Gina Davis aussi dans son premier grand rôle. Donc voilà, The Thing, La Mouche, La Féline, trois films des années 80 que je vous conseille vivement de regarder. Et puis pour finir, peut-être avec un de mes films préférés au monde, alors qui n'est pas tout à fait dans la thématique des bêtes, dans le sens des animaux, quoique, mais plutôt des bêtes de foire, et surtout dans comment on traite les gens et toute la cruauté que ça peut engendrer sur la différence. C'est Elephant Man, moi, que j'ai vu, encore une fois, un film très jeune. Et je me dis que c'est bien que je l'ai vu jeune, parce que je pense qu'après avoir vu ce film, on ne peut pas avoir... supporter qu'on traite mal quelqu'un sur la différence, sur la cruauté. C'est un film absolument magnifique. C'est évidemment David Lynch, donc le film est dans un noir et blanc sublime. Il y a Anthony Hopkins et John Hurt. Voilà, c'était une petite incartade pour finir en développant le thème de la bête de scène, puisqu'évidemment, à cette époque-là, Les gens difformes ou handicapés, ben c'était de vraies bêtes de foire qu'on payait des tickets pour venir les voir, en plus leur collant des histoires absolument affreuses, pour effrayer les gens. Voilà. Et puis cette phrase magnifique, quand à un moment donné il se retrouve coincé dans des toilettes publiques, poursuivi par une foule de gens qui veulent le on ne sait pas quoi, enfin qui sont extrêmement dangereux. Il y a cette fameuse phrase mythique « Je ne suis pas un animal, je suis un homme ». Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Et voilà. C'était Pierre Maillet et bon film.
Les moments musicaux du studio. Extrait du bestiaire, le dauphin, l'écrevisse et la carpe, de Francis Poulenc. Rugissons de plaisir avec Guillaume Apollinaire, Oleg Volkov, baryton basse, et Levi Gerke, piano, l'opéra studio.
Dauphin, vous jouez dans la mer, le flot est toujours amer. Parfois ma joie éclate-t-elle, la vie est encore cruelle. Incertitude ou mes délices, vous et moi, s'en vont les écrevisses à reculons, à reculons.
Pour nous, dans les coulisses des Célestins de Lyon,
à l'occasion de la représentation de Nostalgia Express de Marc Lainé, Léopoldine Achache est allée poser quelques questions à Thomas Gonzalez sur son rapport à l'animalité. Thomas Gonzalez sera Thésée dans le Phèdre de Mathieu Cruciani la saison prochaine. Entretien en coulisses, Léopoldine Achache.
Nous sommes dans les couloirs du Théâtre des Célestins à Lyon. Nous arrivons sur le plateau.
Oh là là!
C'est parti.
Eh oui!
Vas-y. Fais une petite impro. C'est donc le piano du spectacle La Nostalgia Express de Marc Lainé.
C'est quoi le chien?
Ah oui!
Ça, c'était le chien.
Alors, moi, j'ai fait une improvisation autruche syndrome de Tourette.
Très bien. Ouais. C'est parti pour l'autruche Tourette.
Voilà.
Et puis, il y a un autre bruit de porte qui ressemble à une baleine.
Ça va bien.
Très bien.
Est-ce que j'ai vu des acteurs jouer des animaux?
Oui. C'est vrai, dans le spectacle de Mathilde Delahaye, j'ai joué la reine termite. Elle avait écrit un très beau texte et je jouais la reine des termites. Et je racontais en fait de la... je pense qu'elle a dû pomper ça chez Maeterlinck. Et en fait, elle a écrit ce texte très beau où ça raconte la genèse en fait d'un royaume termite. C'est-à-dire comment un petit couple de termites... se rencontrent comme ça et fondent en fait une vraie colonie et comment la colonie elle s'amplifie jusqu'à devenir, à prendre des proportions énormissimes autour du corps hypertrophié de la reine génitrice quoi. C'était vraiment génial ça. Ouais, c'était beau ça.
Ah, comment vas-tu?
Ça va bien.
Ça s'est bien passé hier soir?
À peu près. Hein.
Ouais.
Franchement, carrément. Le dernier clone qui arrivait un peu tard, mais franchement,
oui,
ça allait.
Hein. Ça fonctionne.
Et ben justement, je trouvais que ça plus crédible que ça fasse.
Le micro-trottoir de Gaspard. Les animaux colmariens sont plus humains qu'on ne le pense. Gaspard Raymond grogne et hennit dans les rues de Colmar.
Est-ce que tu peux m'imiter un animal? Et moi, j'essaie de deviner ce que c'est. C'était le cheval?
Peut-être un orang-outan.
Pardon, c'est moi.
Pas de doute possible, c'est un cheval.
Est-ce que tu peux m'imiter un animal? Je vais essayer de deviner ce que c'est.
Un animal. Un canard.
Bien joué. Est-ce que vous pouvez m'imiter un animal? Et moi, j'essaie de deviner ce que c'est. C'était le singe. Est-ce que tu peux m'imiter un animal? Et moi, j'essaie de deviner, parce que je suis pas très fort. C'était le coq.
Tous les matins, j'en ai un à côté de chez moi.
Est-ce que tu peux m'imiter un animal? Et moi, j'essaye de deviner, parce que je suis très mauvais à ce jeu-là, et j'ai besoin de m'entraîner. Est-ce que tu peux me faire une imitation?
Grab it.
Je peux le réentendre?
Grab it.
C'est un animal amphibien?
Oui, amphibien.
Un crapaud, une grenouille?
Oui, mais bien joué, bravo!
Création musicale originale d'un morceau qui donne envie de hurler à la lune, Monsters. Michaela et David de Ferguson.
Histoire vraie. Janvier 2020, Bussan, Théâtre du Peuple, Maurice Potcher, Les Vosges en plein hiver.
C'est beau.
C'est très très beau. On est en résidence de création. On est hébergé dans la petite maison qui se trouve juste au pied de cette cathédrale de bois. Il neige. Et nous, on est bien au chaud au creux du canapé. On fait tourner en boucle une espèce de riff là, qui ne nous quitte pas depuis la veille. Et dehors, tout est calme. Pourtant, on croirait sentir une présence, quoi, quelque chose qui plane. À moins que ce ne soit quelque chose qui rôde.
La nuit passe et le lendemain, il se produit un truc assez magique. On a la mélodie, on a les paroles, tout nous vient comme tombé du ciel. Ça va s'appeler « Monsters ». Et c'est une chanson qui parlera des monstres, de nos monstres, des créatures, de tout ce qui nous hante. Monsters are real, tout ça est vrai, tout ça existe.
À nous de les affronter, quoi, en se liant comme une meute.
Du coup, il nous faut un loup, les cris, le cri.
Le cri d'un loup. Ce qui est dingue, c'est que quelques jours plus tard, en fait, on arrive, on retourne au théâtre et on découvre la nouvelle affiche du Théâtre du Peuple. Et là, on reste sans voix.
Le loup est là.
Le loup est là, c'est l'animal totem de la saison 2020. Et là, on se dit merde alors.
Est-ce qu'on aurait été visité ? La question se pose vraiment, puisqu'en définitive, quelques temps plus tard, c'est carrément sur scène qu'on va retrouver le loup.
En chair et en os.
Dans Hamlet, il apparaît à chaque manifestation du spectre, le fantôme du père.
Voilà, la petite histoire.
Vraie.
D'une chanson.
Et d'un loup.
Au plateau.
Close your eyes, hear the size of a creature. Go close your door, now the war's getting bigger. It's near, near. Open your eyes, realize they're in numbers. Open your door, it's war, the monsters are real. Real.
Maybe the monster is me.
illustrations visuelles et sonores de Lily Terrana. Lily, dessine-nous un mouton. Anima de Wajdi Mouawad par Marion Bouquet. Dans ce texte, chaque chapitre est vu par le prisme d'un animal. Pour l'adaptation de Karim Belkacem, Marion était assistante à la mise en scène. Marion, nous t'écoutons.
Canis, lupus, familiaris. C'est moi la première qui ai senti sa présence. J'ai entendu le bruit de ses pas, deviné sa silhouette dans l'obscurité. J'ai aboyé. Mes maîtres sont sortis. Ils ont attendu. J'ai aboyé. Je suis allée au-devant de lui. Il boitait. Un oiseau sous une épaisse couverture reposait dans ses bras. L'homme lui parlait tout bas. Pourquoi, nous qui voyons les animaux se presser à la tombée du soir pour retourner là où vivent leurs semblables, ne faisons-nous pas comme eux? Pourquoi, tout au contraire, nous, les humains, fuyons-nous le plus loin possible de nos maisons? Toi, une fois guéri, tu chercheras à retrouver au plus vite ta nuée à laquelle la tempête t'a arraché. Moi, lorsque la tempête m'a arraché à ce que j'aimais, je me suis enfui. Felis silverstris catus, Serenus canaria, Corvus corax, Mephistis mephistis, Tegenaria domestica, Equus mulus, Boa constrictor. Chat, canari, corbeau, mouffette rayée, migale, mule, boa constricteur. Voilà en partie, et une partie, des titres des chapitres d'Anima. Anima, c'est un roman de Wajdi Mouawad. C'est un roman où la voix des animaux remplace la voix de Warash, un homme dont la vision du meurtre de sa femme a fait éclater la bestialité. C'est un roman où le regard des animaux prend en charge la narration du texte. C'est donc plus Warash qui raconte son périple, mais les chevaux dans un camion qui les transporte, l'American Staff qui a envie de le bouffer, ou son chat. C'est une écriture comme pour permettre aux hommes d'être spectateurs, enfin comme pour appréhender au mieux nos propres pratiques. Equus cabalus, c'est une traversée des abysses. Nous avons encore roulé, brinque-ballé sur des routes carriées par le froid, puis nous nous sommes de nouveau arrêtés. Où sommes-nous? Une voix a dit « Stop for 2 hours », je sens plus la douleur. Je sens plus mes jambes. J'ignore si c'est le jour ou si c'est la nuit, tout est déformé. Hier, on nous appelait horse ou cheval ou cabalot. Aujourd'hui, nous sommes de la marchandise. Il y a un homme dans le fond de la carlingue. Il avance pas à pas parmi la horde. Il a un couteau dans la main. Il s'approche de moi. Ses mains tremblent. Il tranche la lanière de chanvre qui use ma peau jusqu'au sang. Il m'en libère. Il parle. Une seule Mongolie à l'horizon. Il vous faudra avoir une seule idée en tête. Une seule steppe. Il vous faudra retrouver le galop quitte à galoper avec la mort. Galoper mieux vaut le galop que le gourdin. La vie se saisit de mes muscles. Je me cabre et sans plus attendre, fou de rage, je m'élance au dehors. Et après Anima, ce sera peut-être les enregistrements des dauphins sauvés par Sea Shepherd que l'on entendra gronder sur la scène actuelle.
L'impromptu littéraire de JB. Paul Schirk, jette-toi dans les pages des livres.
L'impromptu de JB. Une émission proposée par Monsieur Poquelin, dit Molière. Une émission qui vous fait explorer avec le plus grand auteur de théâtre de tous les temps la présence d'une thématique dans l'écriture théâtrale actuelle. L'impromptu de JB.
bien bonjour ou bien bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui un nouveau podcast de mon émission L'impromptu avec JB, intitulé Bête de scène, et qui aura pour sujet les animaux au théâtre. Bien sûr, ce sujet est plutôt de la compétence de mon ami Jeannot de La Fontaine, mais je ne suis pas en reste. Une de mes répliques les plus connues n'est-elle pas « Le petit chat est mort » dans l'école des femmes. Oui, je sais, le vocabulaire animal est bien souvent dans mes pièces associé à l'insulte, et celles-ci sont souvent dirigées vers la gente féminine. Chienne, charogne, bête. Je m'en excuse, et ne me cacherai pas derrière l'époque. Le JB de 2022 n'écrirait sans doute plus cela. Mais passons sans plus attendre à ma sélection du moment. Commençons par « La bataille des Scandards » de Samuel Gallet, publié aux Espaces 34 en 2016. Pour échapper aux huissiers, une femme rêve d'un séisme qui les ferait disparaître, elle et son fils. La catastrophe advient, tout s'effondre. Dans la ville des Scandards, la nature reprend ses droits. Des fauves s'échappent d'un zoo et attaquent celles et ceux qui n'ont pas pu ou voulu partir. Parmi eux, Thomas Cantor, un obscur criminel en cavale. Récit polyphonique, cette pièce à l'écriture ciselée aborde de nombreux sujets sociaux à l'aide de la présence animale. Lecture vivement conseillée. Continuons avec Daisy, de Rodrigo Garcia, publié aux Solitaires intempestifs en 2007. Une foule de personnages défile devant la chienne Daisy. Des cafards, les habitants de Fribourg, Emily Dickinson, Catwoman, Mozart, un clown, un sage affublé d'une casquette de contrefaçon, etc. Passé maître dans le maniement de l'absurde, Rodrigo Garcia dévoile le désarroi des individus. Avec une écriture directe et à l'aide des animaux, il fait une peinture au vitriol de nos bassesses humaines. Poursuivons avec « Quand viendra la vague » d'Alice Zeniter, publié à l'Arche en 2019. Alors que le déferlement d'une vague frappe leur petite île, Matteo et Letizia, juchés sur un rocher, assistent à la montée des eaux. Au beau milieu de cet écosystème bouleversé, ils procèdent à la sélection des espèces, décidant lesquelles méritent d'être sauvées. Une pièce sur la fin d'un monde, l'insularité et l'enfermement que représente le couple. Fable écologiste et apocalyptique, Alice Zeniter réussit ici, avec son écriture ciselée, à éveiller en nous nostalgie, révolte, colère et passion. Terminons avec « Bestiaire d'amour » de José Manuel Corredoira Vinuela, aux Presses universitaires de Strasbourg en 2018. L'auteur fait se côtoyer six éléphants, un coq, un tout petit peu assassiné, ainsi qu'un perroquet aveugle. À l'aide d'une intrigue complètement loufoque, habitée par des personnages tous plus extravagants les uns que les autres, l'auteur nous montre ici ce que peut apporter l'utilisation d'animaux pour dénoncer les failles de l'espèce humaine. Magnifique manifeste surréaliste, cette pièce est tout simplement jouissive. Bien, merci à toutes et tous. Je vous souhaite de bonnes lectures et vous dis à très bientôt.
Animal, on est mal. N'est-ce pas Gérard Manset ? Animal, on est très très mal, on a le dos couvert d'écailles. On voudrait le revivre avec Maxime et Léopoldine.
Animal, on est mal, on a le dos couvert d'écailles. On sent la paille dans la faille, et quand on ouvre la porte, une armée de cloportes nous repousse en criant, ici pas de serpent. Animal, on est mal. Animal, on est mal. Sur le devant du nez, on s'abaisse, on s'affaisse, on a la queue. vite animée. Quand elle vous voit, que dit-elle? Il ne vous manque qu'une bosse, pas des rétro-rhinocéros. Dans la peau d'un humain.
Venez d'écouter Bêtes de scène. À bientôt pour notre prochain et dernier podcast de la saison sur l'amour.